Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce midi, à l'occasion du Grand Prix de France de la charcuterie artisanale qui sera décerné demain, nous allons parler du cochon. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte les enjeux. Les Bonnes Choses, c'est un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau présentée aujourd'hui par Pierre Hiverna. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
De quoi allez-vous nous parler aux alentours de 12h25?
Eh bien, je vais vous parler d'un concept qui devrait plaire à vos invités, la viande végétale.
Ouh, nous verrons cela tout à l'heure en fin d'émission donc. Matteo Caranta, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
La madeleine. À 12h15.
12h15, une madeleine aigre douce de la romancière et metteuse en scène Anne Berest.
À tout à l'heure. C'est un grand classique de l'alimentation. Deux Français sur trois estiment qu'ils ne pourraient s'en passer, selon une récente étude de 2020. 99,9% des foyers en achètent et dépensent 305 euros par an à raison d'un achat par semaine. 56% des jeunes de 18 à 34 ans déclarent l'adorer. Boudin, jambon, saucisson, terrine, galantine, fromage de tête, rillettes, andouilles, saucisses. Non, ce ne sont pas des insultes à la capitaine Haddock. Zoom sur ce que d'aucuns qualifient de joyau de notre patrimoine quand d'autres crient « haro » sur le cochon, la charcuterie française.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson.
C'est bon.
Répétons sur ces airs polissons. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux.
Et ça c'est beau.
C'est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson.
Qui c'est qui est
bon? Qui c'est qui est bon? C'est le cochon,
c'est bon.
Deux invités pour nous parler du cochon et de la charcuterie ce midi. Joël Mauvignier, bonjour.
Bonjour madame.
Bienvenue à vous. Vous êtes meilleur ouvrier de France. Vous présidez la Confédération nationale des charcutiers traiteurs et traiteurs qui organise un grand prix de France de la charcuterie artisanale. Ce grand prix a lieu ce week-end et les lauréats seront désignés demain. Juste un mot avant de présenter notre deuxième invité. Qu'est-ce que vous récompensez? Qui vous récompensez-vous lors de ce grand prix? Et sur quoi portent les épreuves? En un mot.
Les épreuves, c'est 33 heures d'épreuves. Donc,
quand même.
Samedi, dimanche, lundi. 9 produits à fabriquer, 8 produits de charcuterie authentique, les basiques, les classiques, revisités, etc. Et juste une pointe quand même, le 9e plat, ça sera aussi quelque chose d'ancestral, c'est l'aspic de foie gras. Donc c'est la charcuterie de mes pères, de mes grands-pères, etc. Et voilà, donc c'est ça aussi, la charcuterie, l'évolution de la charcuterie dans les dernières 50 années.
Éric Orsenna est notre deuxième invité. Bonjour à vous.
Mais bonjour.
Éric Orsenna, membre de l'Académie française et ambassadeur de l'Institut Pasteur. Éric Orsenna qui poursuit son exploration de la mondialisation à travers ce 6e petit précis qui vient de paraître chez Fayard et Stock. Le cochon, histoire de cochon au pluriel, puisque c'est cochon au pluriel, voyage au pays du vivant, le titre de ce petit précis de mondialisation. Alors tout est bon dans le cochon, vous êtes d'accord Éric Orsenna, comme le chantait à l'instant Juliette?
Tout est bon et en même temps c'est le reflet de notre société, puisque c'est l'animal que nous consommons le plus. Il y a en gros 1 milliard de porcs qui sont abattus chaque année pour être mangés, 1 milliard. Et c'est une histoire qui date depuis 8 ou 9 000 ans, depuis qu'on a inventé entre le Tigre et l'Euphrate dans le Moyen-Orient, dans ce qu'on appelait le croissant fertile et qui maintenant est déchiré par la guerre, où on a inventé l'agriculture moderne et l'élevage. Et donc c'est à ce moment-là. Et alors ces cochons, ils se sont dispersés un peu partout, ils se sont évidemment croisés, sauf quelques-uns qui sont venus directement chez nous par bateau, et c'est les races corses qu'on appelle le Nustral. Et donc j'adore toutes ces histoires, parce que c'est une longue histoire, et dont nous avons des descendants directs que nous pouvons trouver un peu partout, en haut de cette formidable île qui s'appelle la Corse.
Alors je ne sais pas si on va jusqu'à manger les dents, Joël Mauvigny va nous le dire ensuite, mais vous parlez d'un morceau particulier dans votre livre, Éric Orsenna, qui est la bardière. J'aimerais bien que vous nous parliez de ça.
Mais oui, parce que dans tous les éléments du cochon, à part les dents, moi je suis très proche des cuisiniers, et je suis très très honoré d'être avec un meilleur ouvrier de France. Pour moi, c'est la hiérarchie absolue. Et puis ma grand-mère était lyonnaise. Donc j'ai été élevé, comme on dit, au cul des pianos. Dans la cuisine et au cul des cuisinières. Et donc la bardière, c'est un des éléments du porc, mais il y en a partout, puisque comme on dit, et c'est vrai que c'est répandu, mais tout est bon, c'est vrai, parce qu'il y a des milliers de manières de présenter la centaine de parties du cochon qui est nous. Et ce qui est fascinant, c'est que le cochon est l'animal, à part le chimpanzé, qui nous ressemble le plus.
Éric Orsenna, il y a cette histoire de cousinage entre l'homme et le cochon et de ses 95% de gènes similaires avec nous, êtres humains. La thèse de l'historien Michel Pastoureau, dont vous parlez dans votre livre, c'est justement que c'est peut-être la source des interdits alimentaires autour du cochon. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de dire ça?
Alors, je suis un nain par rapport à cet historien magnifique, mais je suis arrivé à la même conclusion après 3 ans d'enquête. C'est-à-dire que toutes les autres raisons, les raisons de mauvaise digestion, de porc, de température, de choses comme ça, ça marche pas. Parce que dans les mêmes régions où il fait aussi chaud, voire plus chaud, d'autres communautés mangent du cochon. Donc, c'est pas forcément là. C'est vraiment une sorte de ressemblance. C'est-à-dire, on n'accepte pas de se nourrir d'un animal si proche que nous. Donc, d'une certaine manière, en mangeant le cochon, nous nous mangeons nous-mêmes.
Ah oui, ben ça, c'était la question suivante, bien sûr, puisque c'est peut-être l'une des sources des interdits alimentaires autour du cochon. Juste un mot, Joël Mauvigny. Tout est bon dans le cochon, jusqu'aux dents, mange-t-on les dents?
Alors, les dents, non, on les mange pas, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que...
On peut en faire de la soupe.
Oui, bien sûr, on peut faire un bon jus, les bons jus de cuisson que nous avons.
Un bouillon, disons.
Un bouillon, oui, qui se transforme après en jus, etc. Et qui se transforme en gelée, parce que à force de répéter les cuissons des os, des coings et des légumes, on arrive à dégeler, voilà, où on fait cuire nos produits et où on conserve nos produits. Et donc, ce que j'apprécie de M. Orsenna, c'est que il a la même approche du cochon. On ne parle pas de porc ici. On parle du mot cochon, c'est vraiment l'animal le plus noble. Je pense que c'est l'animal écolo, parce que c'est vrai que tout est recyclé dans le cochon, rien n'est gâché, voilà.
Alors en même temps, on va pas parler que du cochon, puisqu'on parle de charcuterie, mais c'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai compris, vu, découvert, que même s'il n'est pas question que de cochon dans la charcuterie, c'est essentiellement à base de cochon qu'on fait de la charcuterie, Joël Mauvigny.
Tout à fait.
Comment l'explique-t-on?
Mais c'est parce que c'est un animal qui a des vertus extraordinaires, avec lesquelles on peut faire tout, on peut faire du sec, on peut faire de la cuisson telle que le jambon, on peut faire des pâtés, etc. Tout simplement parce qu'il a une confection, il a une chair qui est entrelardée, qui est, si vous voulez, appréciable pour toutes les fabrications qui doivent être onctueuses. La charcuterie, c'est quelque chose d'onctueux, ce n'est pas sec. Vous ne pouvez jamais faire une terrine de bœuf. Et comme le disait M. Orsenna, c'est que dans toutes les parties, c'est ça qui est le plus dur aussi, parce que c'est un métier à part, charcutier. Et toutes les parties sont dirigées vers diverses fabrications. Vous pouvez pas faire un pâté avec du jambon. Et vous pouvez pas faire avec de la gorge un jambon non plus. Vous voyez donc, tout ça, c'est un métier à part, et que c'est extraordinaire, parce qu'il y a à l'intérieur de l'onctuosité, ne serait-ce qu'à l'état cru.
Éric Orsenna.
Alors, il se trouve que je suis membre de l'Académie française, donc fou de mots. Et vous avez dit ce mot que j'adore, parce que, comme souvent dans le génie de ceux qui ont trouvé les mots, le mot même représente la sensation. Et quand vous dites onctueux, vous savez que ça commence par le onc qui est un peu dur, et petit à petit vous allez vers la douceur. Et c'est ça l'onctueux. C'est-à-dire que on a l'impression que une sorte de matière un peu solide va devenir de plus en plus douce jusqu'à se fondre dans la bouche. Et c'est ça ce que j'adore. Il y a une sorte de parcours de la saveur. Et ça, c'est le premier mot, c'est onctuosité. Et le deuxième mot, c'est la diversité. Je connais aucun animal qui soit possible de nous donner autant de diversité. C'est pour ça qu'il faut le saluer et le traiter le mieux possible.
Une diversité qui d'ailleurs se répand sur tout le territoire français, si on reste dans l'Hexagone, à Joël Mauvigny, puisque les andouilles sont fabriquées en grande majorité au nord de la Loire, alors que les saucissons secs, je parle sous votre contrôle, hein, sont plutôt au sud, les andouillettes plutôt au nord-est, les rillettes sont plutôt des spécialités du Mans et de Tours. J'ai l'impression que seul le jambon, disons, ou les jambons et le boudin se retrouvent un peu partout. Est-ce que ça dit un terroir régional à chaque fois, la charcuterie ?
Mais la charcuterie, c'est 450 produits, avec tous les produits régionaux. Donc vous imaginez la diversité. Alors après, comme vous l'avez cité à juste titre, c'est qu'à un moment donné, on a joué aussi avec la géographie. Donc il est évident que les produits un peu plus chauds, c'est là où on peut faire sécher, c'est-à-dire le sud. Et donc les autres parties aussi, où on mange par exemple tout ce qui est l'Alsace, histoire de fumer, la fumée, parce que c'est aussi de la conservation, de mettre des produits fumés, ça conservait. Donc voilà, on a joué avec les climats. Mais aujourd'hui aussi, la diversité des produits, des charcutiers, on joue avec la régionalisation, bien entendu, mais on mélange. Aujourd'hui, à Troyes, on fait pas que de l'andouillette. Et moi, qui suis un Girondin, je vais faire de l'andouille et de l'andouillette aussi, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je vais citer aussi mon grenier médocain, qui est issu des abats du cochon. Donc c'est ça, 450 produits, vous imaginez?
Alors, c'est magnifique parce que vous avez cité même et prouvé même cette incroyable diversité. Et vous dites qu'on joue avec les origines, mais on triche aussi avec les origines. Parce qu'on dit n'importe quoi. Par exemple, il y a l'histoire incroyable du jambon d'Aoste, qui avait rien à voir avec l'Italie. On pensait que c'était le Val d'Aoste, pas du tout. C'était une petite cité qui est à côté d'une centrale atomique dans la vallée de la Loire. Donc, il y a une nécessité quand même de revenir à un peu de vérité dans ces appellations. Parce que si l'appellation n'est plus contrôlée, qu'est-ce que c'est le vocabulaire et qu'est-ce que c'est la confiance ?
Vous qui aimez beaucoup les mots, vous nous l'avez rappelé, Eric Orsenna, savez-vous d'où vient le mot charcutier ?
Mais pas du tout. C'est pour ça que je visite et je viens à France Culture.
Joël Mauvigné.
Mais le mot charcutier, c'est venu...
Charcutier, quand
voilà,
même.
C'est hein. Charcutier. Oh. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ...
Celui qui cuit la chair.
Il cuit la chair. Il transforme la chair.
Et on raconte, Joël Mauvigné, que l'art du charcutier remonte au temps des empereurs romains, qui avaient même une loi qui impliquait la manière dont les cochons devaient être élevés. C'était la loi Porcella.
Ah, c'est ça. Non, c'est vraiment, on remonte à des siècles en arrière. Par contre, ce que disait M. Orsenna aussi, ça me fait plaisir, quand il citait des fausses appellations, c'est comme quand on appelle le mot serrano. On pense que c'est du jambon issu de l'Espagne. Non, serrano, c'est dans la montagne. Donc, du moment que vous avez des séchoirs que vous faites sécher dans la montagne, ça peut être en Auvergne, dans les Pyrénées, dans les Alpes, c'est du serrano. Et donc, c'est ça des fausses appellations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon combat, il est, et avec tous ceux qui veulent m'aider, vous, les médias, merci, vous, les historiens, etc., c'est de faire découvrir aux consommateurs quelle est la différence entre vraiment le charcutier, le véritable, et celui qui revend la charcuterie industrielle.
Oui, parce qu'il y a quand même, c'est ça, vous disiez problème. C'est un métier à part, il y a quand même charcutier, oui. Une différence entre le métier que vous revendiquez, Joël oui. Mauvigné, en tant que charcutier artisanal, oui. Et le charcutier industriel. Mmh. Elle reposerait sur quoi cette différence selon vous ?
Déjà économique. C'est une question économique. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui un charcutier comme Joël Mauvigné, même s'il a une entreprise qui a plus de 50 et quelques années, parce que c'est de père en fils, juste pour vous dire que mon fils est aussi meilleur en France. Donc voilà, donc...
Vous prenez des stagiaires, parce que oui, c'est peut-être pas trop tard
oui.
Pour moi.
Je suis à plus de 60.
Un jour.
Oui, avec plaisir.
Peut-être un jour, oui. Je pourrais devenir meilleur ouvrier à titre d'immortalité.
et donc, si vous voulez, mon combat aujourd'hui, c'est de vraiment faire découvrir aux consommateurs. Je dis pas que chez les artisans, tout est parfait. Mais on essaie d'essayer de promouvoir vraiment la charcuterie comme elle se faisait il y a 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc.
Ce que vous appelez la charcuterie authentique.
Authentique.
Mais ça voudrait dire quoi ?
Authentique, c'est-à-dire qu'on ne triche pas. On part sur un cochon qui est noble, qui aujourd'hui on a des carcasses, nous, qui font 140, 150, 160 kilos, qui sont abattus 9, 10 mois. Donc c'est des cochons qui sont venus. Aujourd'hui, l'industriel, on est à 4 mois, à 80 kilos. Vous imaginez que le personnage, le cochon, il n'est pas construit. Il n'a pas de muscles. Donc, on ne peut pas faire de la bonne charcuterie. Donc voilà, à partir de là, on travaille avec des méthodes et des méthodes anciennes. Après, on les revisite pour redonner du sens au consommateur aussi, qu'il a envie de partager une belle planche de charcuterie, etc. Mais les valeurs, le goût et tout, c'est toujours la même chose.
C'est bon au moins, toutes vos cochonneries.
Mais je vous crois que c'est bon. Tout est du reste préparé par la maison. Ma femme fait les petits salés, ma fille Angèle la gelée, ma nièce Henriette les rillettes, et mon fils aîné fait l'andouille comme son père.
On fait ce qu'on veut.
Et Et c'est l'heure de la Madeleine, avec le sourire, Matteo Carantin.
Il ne s'agit pas d'andouille, puisque j'ai rencontré Anne Berest, qui m'a reçu dans sa cuisine alors que ses filles étaient à l'école. Anne Berest, justement, qui se questionne beaucoup dans son travail sur la maternité, ses injonctions contradictoires. Une mère en manque d'attention qui ose le mensonge dans la série Mytho, qui était diffusée en 2009 sur Arte. Une mère au bord de l'implosion dans un monologue cocasse et désespéré dans La Visite, qu'elle met en scène du 10 au 17 octobre au Théâtre du Rond-Point à Paris. Mais pour sa Madeleine, la romancière a choisi un aliment qu'elle a transmis avec bonheur à ses filles, un aliment qui trônait dans sa cuisine, qui vient de loin et qui s'acoquine gaiement avec la charcuterie.
Donc ma Madeleine, c'est le malosol, qu'on appelle aussi molosol, ça vient d'un mot russe, malosolnié, qui signifie légèrement salé. Et ceux qui connaissent auront évidemment reconnu qu'il s'agit d'un cornichon slave. C'est un cornichon qui baigne dans une saumure, légèrement salée. On les trouve souvent dans des grands pots en verre. Et ils sont aromatisés avec différentes choses. Moi, personnellement, je les préfère au fenouil ou à la nette, mais on en trouve aussi avec des petits piments ou des petits oignons. Je pense que c'est suivant aussi les régions de Russie d'où ça venait ou suivant les pays. Je sais qu'en Pologne aussi, on les parfume au clou de girofle ou à l'estragon. Et alors, il a une texture contradictoire. C'est-à-dire que c'est un mélange de mollesse et de croquant. C'est à la fois frais et en même temps, c'est un léger gourance. Et il est à la fois peu salé et légèrement sucré. Et en fait, c'est cette saveur qu'on appelle l'aigre doux. Et pour moi, cette fadeur, elle est irrésistible. Et on pense que ce sont les goûts puissants et forts qui nous marquent. Mais moi, je crois que la fadeur a aussi sa puissance. C'est un goût unique de mon enfance qui vient de très, très, très loin. Et ma famille maternelle vient de Russie. C'était des Ashkénazes. Et comme beaucoup de familles où il y a eu un anéantissement. Et après la guerre, en fait, il n'y avait plus de tradition religieuse. Et chez moi, cette tradition yiddish ou ashkénaze, elle est passée par la nourriture. Et donc, quand j'étais enfant, nous n'allions pas à la synagogue, mais nous mangions à table des malosol. Et aujourd'hui, je crois qu'en mangeant des malosol, d'une certaine façon, nous mangions yiddish. À défaut de le parler. Il y en avait tout le temps dans le frigo, et d'ailleurs, j'en ai tout le temps un pot chez moi. Et je constate avec bonheur que mes filles, qui sont petites, comme moi enfant, pour le goûter de 4 heures, elles réclament leur malosol.
Le cornichon qui s'accommode parfaitement de la charcuterie, n'est-ce pas, Joël Mauvignier ?
Tout à fait, c'est vraiment ce qu'on peut l'appeler condiment, je ne sais pas. Mais cette dame a parfaitement décrit un petit peu aussi ce que c'était quand elle parle du croquant et de l'aspect moelleux à l'intérieur du cornichon, parce que c'est ça, quoi. Hein. Je pourrais le comparer au cannelé bordelais, qui doit être croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Et la charcuterie, c'est ça, quoi. C'est, il faut que ça soit cuit, il faut que ça soit onctueux, il faut que ça soit moelleux, il faut que ça reste sur les papilles, il faut que, voilà, il faut que ça reste en bouche. Ce qui est un passage comme un bon vin. Voilà, c'est ça la charcuterie.
Abordons ce qu'on peut qualifier comme le faisait juste avant la Madeleine, le petit sketch des années 30 qu'on a entendu. Abordons la question des cochonneries. Cochonneries qu'on trouve. C'est bizarre ce mot, cochonnerie, pour dire cochonnerie, en quelque sorte. Mais il se trouve que la charcuterie n'a pas bonne presse ces dernières années. De multiples études, l'OMS en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, qui avait classé la charcuterie comme cancérogène, recommandé d'ailleurs d'en limiter la consommation à 150 grammes par semaine, ce qui n'est pas beaucoup. Quelles ont été et quelles sont encore les implications pour vous, vous qui, je le rappelle, défendez les charcutier artisanal. Est-ce que ça veut dire que la charcuterie artisanale, c'est celle qui représente les 5% restants quand on parle des 95% de porcs qui sont élevés dans des conditions industrielles intensives?
Bah écoutez, c'est comme actuellement le virus que nous vivons, quoi. Les scientifiques ne sont pas d'accord. Donc sur le cochon, est-ce que pour la santé c'est bon ou c'est pas bon? Tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent que ça ne fait pas de mal. Le bon cholestérol, ben c'est pas en mangeant du cochon que ça amplifie les choses. Au contraire, vous avez des scientifiques aussi qui disent que, et vous regardez, alors malheureusement, c'est de mon côté, de mes gènes, c'est au Pays Basque, tous les sportifs mangent du cochon. Deux ou trois fois par semaine, et au petit déjeuner. Et nous avons aussi, vous prenez Bayonne, qui est la ville où les gens vivent le plus vieux, longtemps, hein, ok? Pourquoi? Parce qu'ils mangent du cochon, ils mangent du bon pain, et ils boivent du vin. Donc à un moment donné, quand vous mangez de la bonne charcuterie, alors il est évident que celui qui va se taper 500 grammes de rillettes par jour, oui, là, oui, peut-être qu'il peut avoir le cancer du côlon. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on pointe du doigt, le cancer du côlon. Mais quand on mange, et là je voudrais finir, de la charcuterie normale, il n'y a pas de souci. Je vais vous dire une chose, madame. Vous naissez, vous n'avez pas de dents, qu'est-ce qu'on vous fait manger? Du jambon blanc haché, menu. Vous allez à l'hôpital, on vous donne du jambon pâte. Et vous finissez à l'EHPAD, on vous donne du jambon aussi. Donc si vraiment le cochon au travers du jambon était négatif, nocif, je vois pas pourquoi, à ce moment-là, dans les hôpitaux, quel que soit l'âge que nous avons, on nous en ferait manger. Donc là-dessus, oui, je suis un peu virulent, parce que c'est abominable d'un tas des choses.
Éric Orsenna, le problème, c'est précisément les cochonneries. Les cochonneries, ce sont le problème de ces nitrites qui donnent un aspect rose au jambon, ce qui là aussi est étonnant, puisque de fait, le cochon, au départ, est rose. Or, il faut, quand on trouve un jambon, lui redonner un aspect rose que donnent les nitrites, sinon le jambon serait gris, il est donc un peu moins vendable. Les nitrites, c'est ce qu'on trouve un peu trop souvent, c'est ce qui a fait que les charcutiers ont beaucoup réduit leurs nitrites dans ce qu'ils vendent. Alors, vous êtes allé à la rencontre de familles d'éleveurs de cochons, en Bretagne notamment, où on les accuse de mettre pas mal de nitrites. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu?
D'abord, pour compléter la réponse de Joël, tout est affaire de mesure et de qualité. J'ai vu la même chose, le débat sur le vin, c'est-à-dire le vin est cancérigène. Mais bon, je veux dire, tout dépend de la mesure et aussi de la qualité. Donc il faut mieux en vendre moins, en boire moins, et puis que ça soit de qualité. Sur le cochon, ce que j'ai vu, c'est que il y a exactement comme dans le traitement des sols, un progrès très net, un progrès qui n'est pas assez rapide, mais je vois un progrès partout. Et aussi, c'est les consommateurs qui veulent que ça soit du rose, et qui veulent d'une certaine manière que ça soit en dehors de la nature, d'une part, et d'autre part, ils veulent toujours payer le moins cher. Il faut savoir quand même que en 25 ans, la part du budget d'une famille moyenne en alimentation est passée de 25% à 11%. Donc comment peut-on avoir des produits de plus en plus grande qualité en payant de moins en moins cher? Donc c'est pour ça que je supporte pas le mépris dans lequel on tient les agriculteurs. Ils progressent, mais il faut que nous, consommateurs, nous soyons prêts à rémunérer ce qu'ils font, leurs efforts, au lieu de les accabler. Donc c'est ça ce que je veux dire. Donc je suis pas du tout naïf de ce qui se passe. Il y a des conditions d'élevage, d'abattage qui sont insupportables, mais une grande majorité d'entre eux progressent. Pas assez vite, mais il faut les aider.
Bon allez, il est quasiment midi et demi, c'est l'heure de déjeuner quand même. Alors j'aimerais bien qu'on termine cette émission avec vous deux autour d'un plat. Un plat de cochon, peut-être Éric Orsenna, un plat de charcuterie à votre choix, et Joël Mauvignier. Qu'est-ce qu'on mange ce midi autour du cochon, Joël Mauvignier?
Qu'est-ce que je vous conseille? On est encore avec un temps un petit peu mitigé. Donc moi je conseillerais une poitrine de cochon marinée, cuite, basse température, qui va cuire toute la nuit. Vous la mettez à 85 degrés toute la nuit dans votre four. Vous vous couchez, vous vous levez, vous l'enlevez. Et puis le lendemain, pour le midi, vous la snackez juste à votre poêle, et puis avec un légume qui va vous faire plaisir de saison, quoi. Tranquille, simple et pas cher.
Tranquille, simple et pas cher. Éric Orsenna.
Alors moi, c'est pas tranquille, pas simple, mais relativement cher. Ça s'appelle l'oreiller de la belle aurore, qui est une sorte de sommet absolument de la charcuterie. C'était une invention de Brillat Savarin, donc au 19e siècle, en hommage à sa mère qui s'appelait Claudine Aurore. Et donc c'est dans un coussin de pâte qui peut être feuilleté, brisé, et c'est toutes les viandes possibles qui enrobent avec des cuissons très particulières pour que et les textures et les parfums se répondent, et au milieu il y a un cœur de truffe. Et tout ça avec un petit Cahors, je peux vous dire, vous êtes le roi du monde.
« Restez avec nous tous les deux, si vous le voulez bien, Joël Mauvignier et Éric Orsenna, pour écouter la chronique, la cerise sur le gâteau, la chronique de Pierre Hiverna, qui nous parle de viande végétale. Tiens donc.
Oui, oui, Caroline, aujourd'hui, je dois avouer que face à l'annonce la semaine dernière d'une entreprise qui s'appelle Les Nouveaux Fermiers, de l'ouverture de leur usine de production de viande végétale, il m'a fallu tout simplement reprendre un dictionnaire pour y chercher le mot viande et le mot fermier afin de vérifier que je n'avais pas raté une séance de l'Académie française où Éric Orsenna nous en aurait subrepticement modifié le sens sous couvert de modernisation de la langue française.
Il aurait été capable, attention.
Absolument. Alors, je vous rassure tout de suite, chers auditeurs et aussi amis charcutiers, le Larousse précise toujours que la viande est bien un aliment tiré des muscles des animaux, principalement des mammifères et des oiseaux, et un fermier est encore, jusqu'à nouvel ordre, celui qui dirige une exploitation agricole. Enfin, non, parce que là, en l'occurrence, ceux-là, il va falloir désormais les appeler les anciens fermiers. Entendez par là ces gars qui se pourrissent la vie à longueur d'année pour nous nourrir en gagnant un demi-smic. Voyez ces ringards de bouseux dont la première start-up s'est installée au néolithique et qui ne connaissent même pas le mot disruption. Non, nouveau fermier, c'est autre chose. C'est moderne, c'est une usine qui pue pas, qui pollue pas, qui n'a pas d'animaux, pas de champs ni de prés et donc pas de pesticides, qui n'exploite que des machines et qui fabrique 100% français. Bref, qui coche toutes les cases pour être éligible au financement de Xavier Niel, notre pape du numérique désormais devenu fermier digital. Le même Xavier Niel qui, tiens comme c'est étrange, a initié en juillet dernier un projet de référendum d'initiative partagée qui permettra, je cite, d'améliorer le sort 1 milliard d'animaux chaque année en France et qui, au passage, a permis à la Fondation Brigitte Bardot de revenir sur le devant de la scène. Et donc, le même qui fait dans l'oxymore pour le plaisir de la provoque et pour les besoins de marketing de la viande végétale. Alors, entendons-nous bien, loin de moi l'idée de critiquer la qualité gustative des steaks, nuggets et autres aiguillettes des nouveaux fermiers, je ne les ai pas goûtés. Mais au moins depuis Lacan, on sait que le langage ne peut se résumer à une simple astuce d'ajustement dans un business plan. Il induit des valeurs et des comportements. Il éduque et forme les esprits de toute une société. Certes, il n'est pas contestable que l'élevage ultra-intensif a détruit une confiance dans certains éleveurs peu regardants sur la qualité et les conditions de production de la viande. Mais est-ce une raison nécessaire et suffisante pour installer une telle querelle entre les anciens et les modernes, les premiers étant condamnés à mourir le plus vite possible sur le champ d'honneur de la préservation de la planète ? Comme si les choses pouvaient être aussi manichéennes, comme si l'économique et le social et la cohésion d'une nation ne pouvaient se traiter qu'en ostracisant. Alors, amis nouveaux fermiers, qui n'êtes jamais qu'une branche comme une autre de l'industrie agroalimentaire relookée à la mode start-up, changez de nom, par simple respect pour la noble profession de fermier dont les habits sont trop grands pour vous. Et puis, si en plus vous pouvez arrêter de nous parler de viande végétale, ça évitera de nous semer la confusion linguistique au cours préparatoire et à la cantine. Merci d'avance.
C'était le coup de gueule de Pierre Hiverna.
Il a raison, mais il reprend Camus. Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Ces gens-là, pourquoi pas qu'ils fabriquent ce qu'ils veulent, mais qu'ils l'appellent bien. Arrêtons les escroqueries du langage, parce que c'est des faussaires.
Éric Orsenna, membre de l'Académie française et ambassadeur de l'Institut Pasteur. Cochon, voyage au pays du vivant, ça c'est le titre de ce 6e petit précis des mondialisations qui vient de paraître en coédition Fayard et Stock. Merci à vous d'être venu dans cette émission ce midi et merci beaucoup Joël Mauvignier. C'est la fin de cette émission.
Merci.
Les bonnes choses se poursuivent en réécoute, en podcast, sur franceculture.fr. Toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Nicolas Delmas, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman. À dimanche prochain.